Avec Audiolib, écoutez le prix Goncourt.
Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après.
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, en librairie et sur audiolib.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est en direct du Salon des Seniors, porte de Versailles, que Franck Ferrand nous attend cet après-midi. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Vous allez les entendre, tous les visiteurs du Salon de cette porte de Versailles, de ce Salon des Seniors qui sont venus assister en direct à notre émission. C'est une journée pleine de pittoresque aujourd'hui pour moi, je dois vous dire, Céline, parce qu'après avoir passé la matinée chez Cyril Hanouna, j'ai traversé Paris avec Lorena en deux chevaux décapotables et me voici aux côtés de Gilbert Sinoué pour évoquer Gandhi. Un autre Gandhi, celui des jeunes années en Afrique du Sud, qui sont l'objet, ces jeunes années, du très beau roman que vient de publier Gilbert Sinoué chez Flammarion. Ça s'appelle « La nuit de Maritzbourg ». Ça pourrait être un beau roman d'été, mais comme nous sommes encore assez tôt dans l'année, on va dire que ce serait aussi tout simplement un beau roman pour les vacances de printemps. Tout à l'heure, nous aurons évidemment notre retour aux origines habituelles. Je vous parlerai à cette occasion de la cinquième colonne. Pour le moment, place aux révélations sur la vie de Gandhi.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
J'ai déjà eu l'occasion de dire ça. Il me semble que Gandhi fait partie des cinq personnages les plus importants du XXe siècle. Peut-être même en est-il la grande conscience. Tout le monde garde dans un coin de sa mémoire l'image de cette silhouette si fragile et pourtant tellement forte, indestructible, si pauvre d'apparence et en vérité riche de son immense force. Le Mahatma Gandhi, naturellement, au premier regard et dans l'imaginaire de la planète entière, c'est ce petit homme frêle avec son crâne rond, presque chauve, ses lunettes de métal, cette poitrine creuse et ses genoux cagneux. Le petit bonhomme chemine en pagne et en sandales, une sorte de gros châle blanc jeté sur l'épaule. Qui aurait dit qu'il deviendrait pour très longtemps l'incarnation de tous les démunis? Qui aurait pensé qu'un tel homme aurait pu être reçu avec les marques de respect qu'on réserve habituellement aux souverains par tout ce que l'Occident pouvait compter de gens importants? Ce n'est certes pas aujourd'hui la première émission que je consacre à Gandhi. Nous avons eu l'occasion d'évoquer un certain nombre des aspects les plus extraordinaires de sa personnalité, un certain nombre d'aspects parfois controversés aussi. Et du reste, le roman de Gilbert Sinoué s'achève plus ou moins par cette lettre que Gandhi avait adressée à Adolf Hitler. On en parlera bien entendu tout à l'heure avec mon invité. Cet homme a su faire entendre à jamais un langage de vérité, de non-violence constructive. Attention, quand on dit non-violence, on est loin de la mièvrerie. C'est là qu'il faut recourir à la notion de satyagraha au sens propre, qui veut dire la vérité par la force de l'âme. Le Gandhi que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est celui des années de jeunesse. C'est, disons-le, un Gandhi inconnu. Lorsqu'il naît, en 1869, dans la petite principauté de Porbandar, on est là au nord de Bombay, au milieu de la côte ouest de l'Inde, si vous voulez, son père est le principal ministre du prince local, le Maharaja de Kathiawar. L'Inde est une immense mosaïque de petits états dirigés par des Maharajas qui ont fait allégeance à la couronne britannique. Les Anglais sont chez eux en Inde et l'on peut dire que Gandhi vient au monde à l'apogée de la colonisation. D'ailleurs, il a 8 ans quand la reine Victoria est couronnée impératrice des Indes. Alors, je vous ai dit que le père de Mohandas et son prénom est un personnage relativement important. Ça explique que le jeune homme, après avoir été marié à 14 ans avec la jeune Kasturmai, qui elle-même n'en a que 13 d'ailleurs, c'est ce qui explique que ce jeune homme puisse se rendre en Angleterre, à Londres même, pour y faire son droit. Mais si son père est assez installé pour l'envoyer là-bas, il n'est pas assez riche, il s'en faut, pour lui offrir Oxford ou Cambridge. Et c'est en étudiant pauvre d'une université de deuxième ordre que le jeune Mohandas Gandhi va découvrir cette Angleterre qu'il admire beaucoup. Et là encore, il faut tordre le cou à cette idée fausse selon laquelle Gandhi aurait contracté à Londres une quelconque antipathie à l'égard des Britanniques. Non seulement le jeune homme admire énormément le Royaume-Uni, mais il voue au modèle victorien une véritable fascination. D'ailleurs, lui-même est réputé pour son élégance, son maintien. On est loin du Gandhi en pagne. Pour l'instant, il a des costumes sur mesure extrêmement chics. Il sait comme personne nouer une cravate, porter le chapeau claque. Il marche partout avec un grand parapluie. Voilà ce que c'est que le Gandhi tout jeune homme. Alors pour autant, Mohandas ne tarde pas à comprendre que quoi qu'il fasse, il ne sera jamais admis dans la bonne société britannique. Et quand il réalise ça, évidemment, il cesse du jour au lendemain de courir éperdument après les élégances et il préfère reporter ses efforts sur le travail scolaire. Chez les gens qui l'hébergent à Londres, il apprend à devenir végétarien. Il consacre bientôt ses loisirs à traduire la Bhagavad Gita, le cantique du Seigneur, le poème sacré de son pays. « Lorsque je retourne à la Bhagavad Gita, dit-il, je me mets immédiatement à sourire au milieu même des chagrins qui m'éprouvent. » Il y a cette spiritualité extraordinaire chez Gandhi qu'on retrouvera bien entendu d'une façon tellement plus grande et plus forte à mesure que s'accomplira son destin. Alors, ça n'empêche pas de finir donc ses études de droit. Disons-le, Gandhi est un avocat médiocre qui est freiné dans son activité par le respect sacro-saint de la vérité. Vous savez, quand on est avocat, il faut parfois prendre certaines libertés avec le dossier tel qu'il est. Ça, Gandhi en est tout simplement impossible. Il va exercer un petit peu à Bombay, mais sans succès. Il trouve le moyen de se brouiller avec l'agent britannique de Porbandar. Ça, vous avouerez que c'est pas très habile, ce qui va lui barrer tout espoir de succéder un jour à son père, et il va sauter sur l'occasion quand on lui offre un poste de conseiller juridique dans une firme indienne qui se trouve en Afrique du Sud. On reste donc là dans l'Empire britannique. Voilà Mohandas Karamchand Gandhi. Il a 24 ans à ce moment-là. Le voilà installé à Durban, en Afrique du Sud. Il est ce qu'on nomme là-bas, sans distinction d'origine sociale ou d'emploi exercé, un coolie. Autant dire un métèque d'origine indienne. Il va bientôt comprendre ce que cela signifie, évidemment, parce que beaucoup, beaucoup plus tard, quand un missionnaire catholique, à l'occasion d'une sorte d'interview qu'il lui demande, lui pose cette question, il lui demande quelle a été l'expérience la plus déterminante de son existence, eh bien, Gandhi va répondre, c'est ce qui s'est passé une certaine nuit à la gare de Maritzbourg. C'est ce que Gilbert Sinoué appelle la nuit de Maritzbourg. Et dans un instant, je vais vous raconter ce que c'est que cette nuit de Maritzbourg.
Franck Ferrand nous raconte les jeunes années de la vie de Gandhi.
Alors, je vous parle de cette nuit de Maritzbourg. C'est le titre du roman de Gilbert Sinoué chez Flammarion. Que s'est-il passé? Il faut imaginer un train. Vous savez, à l'époque, c'était ces trains à vapeur qui, lorsqu'ils arrivaient dans une gare, envahissaient littéralement le hall de la gare de cette espèce de nuage vaporeux et blanc. Le train arrive. Gandhi, à ce moment-là, n'a pas vraiment encore d'engagement politique. Il se trouve qu'un blanc monte dans le train, il entre dans le compartiment où Gandhi voyage, on est en première classe, c'est l'employeur de Gandhi qui lui a offert ce billet de première classe, seulement l'homme blanc refuse de s'asseoir avec un coolie, comme les Sud-Africains appellent donc les Indiens, et il fait venir un employé du chemin de fer pour déloger Gandhi et le faire voyager en troisième classe, comme la loi de l'Afrique du Sud à cette époque l'y oblige. Voici le récit que Gandhi en personne va faire de cet épisode. Je le cite. Le train arriva à Maritzbourg, capitale du Natal, sur le coup de 9h du soir. C'était dans cette gare que l'on fournissait habituellement les couvertures. Un agent des chemins de fer vint me demander si j'en désirais une. Non, répondis-je, j'ai ce qu'il me faut. Il s'en alla. Un voyageur lui succéda qui me toisa de haut en bas. Il vit que j'étais un homme de couleur et cela le bouleversa. Il sortit et revint avec un ou deux employés. Ils ne dirent rien, mais un autre employé s'approcha de moi et me dit « Suivez-moi, votre place est dans le fourgon. »« Mais j'ai un billet de première classe, dis-je. »« N'importe, répliqua l'homme, je vous dis que votre place est dans le fourgon. »« Et moi, je vous dis qu'à Durban, on m'a laissé monter dans ce compartiment. Rien ne m'en fera bouger. » « Moi, je vous dis que si, » reprit l'employé. « Sortez de ce compartiment si vous ne voulez pas que j'appelle la police pour vous en tirer de force. »« Eh bien, appelez la police. Je refuse de sortir de mon plein gré. » Sur 20, l'agent de police, raconte Gandhi, il me prit par la main et m'expulsa. On enleva aussi mes bagages. Je refusais de monter dans un autre compartiment et le train partit sans moi. J'allais m'asseoir dans la salle d'attente, gardant ma mallette avec moi et laissant le reste de mes bagages sur place. Les agents de la compagnie s'en étaient occupés. C'était l'hiver, raconte Gandhi, et l'hiver est terriblement froid dans les régions élevées de l'Afrique du Sud. Maritzbourg est à haute altitude, le froid mordait. Mon pardessus était resté avec mes bagages, mais je n'osais pas le réclamer, de peur de me faire insulter de nouveau. Je restais donc assis, de cette manière, à grelotter. Et le cauchemar va perdurer pendant le reste du voyage. Gandhi finit par prendre une diligence dont le chef l'oblige, là encore, bientôt, à céder sa place à un voyageur blanc, malgré l'opposition des autres voyageurs d'ailleurs, et Gandhi va se retrouver assis dehors, près du cocher. Seulement, le chef veut fumer dehors et il ordonne à nouveau à l'Indien de changer de place, et cette fois pour un strapontin en contrebas, afin de l'humilier encore davantage. Gandhi refuse de s'asseoir au pied de celui qui l'a humilié. Il se fait rouer de coups jusqu'à ce que d'autres voyageurs arrivent pour intervenir, en quelque sorte, en sa faveur. Et arrivé à Pretoria, il a beaucoup de mal à trouver un logement et découvre que la mixité raciale dans les hôtels est inenvisageable. Gandhi nous donne quelques détails sur cette arrivée à Pretoria. Je le cite. En 1893, la guerre de Pretoria n'avait rien de commun avec ce qu'elle était en 1914. Elle était à peine éclairée, les voyageurs étaient rares. Je laissais sortir tout le monde avant moi, dans l'idée que dès que le contrôleur serait à peu près libre, je lui tendrais mon billet en lui demandant s'il pouvait m'indiquer un petit hôtel ou n'importe quel endroit de ce genre où me rendre, faute de quoi je passerais la nuit dans la gare. Je dois reconnaître que rien que d'avoir à poser cette question me coûtait énormément, tant je craignais de me faire injurier à nouveau. La gare se vida de tous ses voyageurs. Je remis mon billet au contrôleur et me renseignai auprès de lui. Il me répondit courtoisement, mais je compris qu'il ne pouvait pas m'être d'un grand secours. Cependant, un nègre américain qui se tenait non loin de là se mêla à la conversation. « Je vois, me dit-il, que vous êtes un parfait étranger ici et que vous n'avez pas d'amis. Si vous voulez bien venir avec moi, je peux vous conduire à un petit hôtel. Le patron est américain, je le connais très bien, et je crois qu'il vous prendra. J'avais mes doutes sur cette offre, dit Gandhi, mais je le remerciai et j'acceptais sa proposition. Il me conduisit au Johnston Family Hotel. Il entraîna Mr. Johnston à l'écart pour lui dire un mot, et le patron consentit à me loger pour la nuit, à condition qu'on me servit à dîner dans ma chambre et non dans la salle commune. » Vous voyez à quel point tout ça est absolument incroyable. « Je vous jure que pour ma part, je n'ai pas de préjugés de race, me dit-il, mais j'ai une clientèle exclusivement européenne, et si je vous laissais prendre votre repas dans la salle de restaurant, mes hôtes pourraient s'en offenser et même prendre congé. »« Merci, lui répondis-je, ne serait-ce que de me loger pour cette nuit. » Je commence à me faire plus ou moins aux mœurs d'ici et je comprends la position délicate dans laquelle je vous mets. Peu importe qu'on me serve dans ma chambre, j'espère pouvoir m'arranger autrement dès demain. On me conduisit dans une chambre où je m'assis et demeurai à rêver, parfaitement seul, en attendant mon dîner. L'hôtel ne comptait guère de clients et je pensais que le garçon ne tarderait pas à monter. À sa place, ce fut Mr. Johnston en personne qui se montra. « J'avais trop honte, me dit-il, de vous avoir demandé de dîner chez vous. Alors j'ai parlé de vous à mes clients pour savoir s'ils voyaient une objection à ce que vous dîniez au restaurant. Ils m'ont dit que non et qu'il leur était égal que vous restiez aussi longtemps qu'il vous plaira. Faites-moi donc le plaisir de descendre au restaurant si vous le voulez bien et restez chez moi tant que vous voudrez. » Très tôt, après cette arrivée tellement difficile, tellement humiliante et marquante à Pretoria, très tôt, Gandhi convoque les Indiens de la région pour évoquer leur situation au cours d'une réunion. C'est le premier grand discours de Gandhi qui, encore sous le choc de ses récentes expériences, s'est trouvé une raison de vivre, ce combat pour la justice qui va l'animer désormais pendant des années, non seulement ici en Afrique du Sud, mais pour le restant de sa vie, et nous verrons bien sûr jusqu'où tout ça le conduira. On peut dire que au cours de cette nuit, de ce voyage, de ces humiliations rapprochées de Maritzbourg, est née une véritable conscience politique.
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la vie de Gandhi.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Gandhi.
Alors, c'est la première partie de la vie de Gandhi que nous évoquons évidemment aujourd'hui, chère Céline. Nous parlons de ces années de formation, cette prise de conscience politique que Gandhi lui-même avait appelée la nuit de Maritzbourg, du fait de son arrivée dans ce train où on l'avait obligé à descendre en voiture de troisième classe, et finalement il avait terminé le voyage en diligence et sur le toit et sur un strapontin. Enfin bon, voilà ce qu'étaient les lois bien sûr de l'Afrique du Sud à l'époque. Le système de l'apartheid prenait ses racines évidemment dans un système qui avait été fondé en l'occurrence, c'est pas tout à fait fondé d'ailleurs, c'est pas tout à fait le terme, mais qui avait été repris en l'occurrence par l'Empire britannique. Alors Gandhi, après la fin de son contrat, rentre en Inde, mais au moment d'une fête d'adieu en son honneur, il apprend le vote imminent d'une loi visant à priver du droit de vote les Indiens du Natal. Et à ce moment-là, il se dit « Oh, mais c'est trop tôt, je ne vais pas rentrer en Inde comme ça ». Il reporte son départ et il décide de rester un mois de plus en Afrique du Sud pour combattre ce projet et défendre les intérêts de la communauté indienne qui, pour la première fois, va commencer, grâce à lui, autour de lui, à s'organiser. Alors, il y a une première pétition qui est un énorme succès, mais malgré ça, le projet de loi est adopté. Gandhi et ses amis, pour autant, ne renoncent pas. Ils organisent une seconde pétition qui va recueillir plus de 10 000 signatures en 15 jours. Les résultats sont envoyés aux grands journaux d'Angleterre et d'Inde. Et cet appel au soutien international fait mouche. De grands titres de presse soutiennent désormais la cause défendue par l'avocat indien. Gandhi, depuis son arrivée dans cette Afrique du Sud, a été complètement touché, même bouleversé par la situation. Et il décide finalement qu'il va y rester. En 1894, il s'inscrit au barreau de Durban et il devient le premier avocat indien d'Afrique du Sud. Par ailleurs, un accord est passé avec les amis marchands de Gandhi qui s'engagent à faire appel à lui pour leurs propres affaires et qui vont lui verser une importante avance financière, ce qui lui permet de s'installer confortablement. Encore une fois, on est encore bien loin du Gandhi totalement dépouillé qui vit dans son ashram et qui file lui-même au milieu de ses chèvres. On est encore là, à l'époque, dans un Gandhi qui profite du système britannique dans ce qu'il peut lui offrir à partir du moment où la ségrégation n'est précisément pas trop forte et ça va être son principal moteur. Ça va être la grande affaire, disons-le, de sa vie. Alors, deux publications de Gandhi vont avoir un grand retentissement. D'abord, l'appel à tous les Anglais sur les conditions de vie des Indiens au Natal. Et puis, le droit de vote des Indiens, appel à l'opinion sur la question des droits civiques. À partir de ce moment-là, Gandhi devient un véritable acteur politique, il faut le dire. Il devient rapidement l'avocat des plus faibles. Le premier qu'il défend est un certain Balasundaram qui arrive à son cabinet la bouche en sang et deux dents devant brisées après avoir été battu par son maître européen. Gandhi gagne le procès, l'affaire fait grand bruit, les clients se multiplient et au même moment, le gouvernement du Natal est en train de mettre en place une taxe annuelle de 25 livres pour les travailleurs immigrés en fin de contrat qui resteraient en Afrique plutôt que de rentrer dans leur pays. Gandhi aussitôt mène ce qu'il appellera lui-même une campagne farouche contre cette taxe qui passera de 25 finalement à 3 livres. Il faudra encore attendre plusieurs années avant qu'elle ne soit totalement abolie, cette taxe. Et Gandhi, vous voyez, remporte procès sur procès, victoire sur victoire. Il se rend compte de l'extraordinaire capacité qu'il a de renverser les choses. Je disais tout à l'heure une prise de conscience politique. Il y a tout simplement aussi la prise de conscience tout court de ce qu'est la force de conviction de cet homme. Une conviction qui ne peut pas encore être taxée de non-violente, mais qui déjà s'appuie pourtant sur les mêmes principes. Alors, Gandhi va faire un un voyage dans son pays natal. Et puis, il revient à Durban. Ce qu'il faut vous dire, c'est que, évidemment, quand il revient à Durban, personne ne connaît ni sa femme, ni ses enfants. Il est pourtant célèbre lui-même, Gandhi. Voilà ce qu'il raconte. Nous continuâmes, sa femme est déjà partie en avant avec ses enfants, nous continuâmes à avancer pendant que la foule enflait jusqu'au moment où il nous devint impossible de faire un pas de plus. Les gens commencèrent par empoigner Monsieur Lawton et par nous séparer. Puis ils me bombardèrent de pierres, de morceaux de briques, de pourris. Quelqu'un m'arracha mon turban, d'autres cependant se mirent à me frapper du poing et du pied. J'étais près de m'évanouir, je parvins à saisir la grille en fer d'une maison et m'agrippai pour reprendre haleine. Mais on ne m'en laissa pas le loisir, on tomba sur moi, gifle, coup, pleuvait. La femme du surintendant de police qui me connaissait se trouva passer par là. La brave femme s'avança, ouvrit son ombrelle, bien qu'il ne fît plus soleil, et se campa entre la foule et moi. Ce geste tint en échec la fureur de la racaille. Il était difficile de me frapper sans faire de mal à Mrs. Alexander. Vous voyez qu'en fait, évidemment, les prises de position de Gandhi commencent à lui valoir une véritable inimitié de la part de la population. Il va bientôt subir condamnation sur condamnation. Les séjours en prison n'auront bientôt plus de secrets pour lui. Nous arrivons là dans une période extrêmement active de cette partie sud-africaine de la vie de Gandhi, qui est le cœur même du roman de Gilbert Sinoué. Bonjour Gilbert Sinoué.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci d'être venu jusqu'ici, jusqu'à la porte de Versailles pour assister à cette émission et pour nous faire part de toutes les découvertes que vous avez faites et qui sont le cœur même de votre roman La Nuit de Maritzbourg. Nous y venons dans un instant avec notamment cette relation d'amour extraordinaire entre Gandhi et un homme. Alors évidemment, nous n'allons pas nous faire que des amis, mais il faut raconter cette histoire dont on ne savait rien il y a encore quelques années seulement.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, en direct et en public du Salon des Seniors, porte de Versailles, pour nous parler cet après-midi d'un autre Gandhi avec votre invité Gilbert Sinoué, écrivain, romancier, auteur de La Nuit de Maritzbourg, L'éternel amour de Gandhi, aux éditions Flammarion.
Oui, très beau roman de Gilbert Sinoué. Bon, on sait que je ne suis pas très objectif puisque j'adore Gilbert Sinoué. Je trouve que ses romans nous emportent littéralement à chaque fois dans un autre univers. On est complètement avec ses personnages et c'est le cas dans celui-ci comme dans les précédents, évidemment. Alors, vous nous racontez un Gandhi qui est tout jeune. Je me suis permis, pendant la première partie, pendant le récit, Gilbert, je me suis permis d'insister sur ce qu'il y avait de particulier quant au Gandhi de l'époque. Ce n'est pas du tout le petit personnage qu'on connaîtra ensuite dans les années 30, 40 et 50, en fait. Hein.
Non, c'est un Gandhi très british, qui adore les complets trois pièces, les chaussures à guêtres, les voyages en première classe, les grands hôtels. Ce n'est pas du tout ce Gandhi, effectivement, qui va gravir les marches du Parlement britannique pour défendre la cause indienne. C'est en plus quelqu'un qui ne connaît pas encore ce qu'il va appliquer, qui est la non-violence. Et comme vous l'avez si bien dit, la non-violence n'étant pas un état passif, mais une action particulièrement forte de résistance. C'est un homme qui est un petit Anglais, un anonyme, pour ainsi dire.
Mais c'est un homme qui s'attaque d'emblée à ce qui lui paraît être une injustice insupportable, en quelque sorte. Les ségrégations qu'il constate au Natal et d'une façon plus générale dans cette Afrique du Sud où il a décidé de s'installer, lui sont insupportables.
Oui, c'est en fait au cours de cette fameuse nuit de Maritzbourg que j'imagine qu'il a été confronté pour la première fois de sa vie au racisme, à la ségrégation, à ce qu'on appellera plus tard l'apartheid. Et il faut préciser qu'il a passé cette fameuse nuit tout seul dans une gare, dans une salle d'attente. Et on peut imaginer toutes les pensées qui ont dû traverser son esprit au cours de cette nuit-là. Et effectivement, je pense qu'après cette nuit, il décide de s'attaquer à la ségrégation et au racisme.
Alors il va s'attaquer, nous l'avons vu tout à l'heure, évidemment à ce code de couleur hein, qui est fondamental. Il va s'attaquer, je l'ai dit, à l'Immigration Law Amendment Bill, c'est-à-dire cette espèce de taxe qu'on a installée pour tous ceux qui, après leur travail, voudraient rester en Afrique du Sud, mais qui n'ont pas de permis de travail. Hein, c'est
oui,
ça.
Et puis il y a une autre taxe à laquelle contre laquelle il va se battre, qui est une taxe qui va être absolument odieuse. On va imposer, c'est même pas une taxe, c'est une loi qu'on va appeler la Black Act, la loi noire, où on va obliger tous les Indiens, qui sont, soulignons-le, des citoyens britanniques, ils appartiennent à l'Empire britannique, obliger tous les Indiens qui vivent en Afrique du Sud à aller donner leurs empreintes digitales et pour obtenir un permis de circuler. Alors imaginez quelqu'un, un Français, qui aurait besoin d'un permis de circuler entre Paris et Lyon. C'est un peu ça l'image.
Alors, il est avocat, on l'a bien compris. Il défend tous ses compatriotes d'origine, tous les Indiens d'Afrique du Sud. D'ailleurs, on a vu qu'il y a une sorte d'accord qui est passé avec les deux grands syndicats indiens. Entre parenthèses, c'est d'une légalité toute discutable, ça, mais enfin bon. Et puis, petit à petit, ce qui était cet avocat se transforme, disons-le, en homme politique, en leader d'opinion. Il va passer son temps à monter des grèves, des mouvements. Il est souvent jeté en prison, du reste, lui-même.
Je ne sais plus combien de fois, mais une bonne dizaine de fois.
Et là, on parle de l'Afrique du Sud, on ne parle pas encore de l'Inde, bien entendu.
Tout ça se passe en Afrique du Sud. Précisons qu'il y est resté entre l'âge de 23 jusqu'à 43 ans. C'est-à-dire que lorsqu'il va débarquer en Inde, je ne dirais pas que l'Inde lui est inconnue, mais presque.
Mais c'est ça. C'est presque un monsieur déjà très mûr qui arrive en Inde, en fait. Il a 43 ans. Bon.
Absolument.
Mais en Inde, la grande différence, c'est qu'il aboutira, il réussira pleinement. Et il obtiendra cette fameuse indépendance, même si, et c'est ce qui fera saigner son cœur, c'est une indépendance qui se fait dans la partition religieuse, malheureusement. Mais en tout cas, il obtient en 1947 l'accomplissement de son combat. Pas en Afrique du Sud du tout. Lorsque Gandhi finira par quitter l'Afrique du Sud, et il la quitte définitivement au moment de la Première Guerre mondiale, en 1914, lorsqu'il s'en va, le système d'apartheid a encore de très beaux jours devant lui, bien entendu.
Absolument. Mais il faut préciser aussi une chose, c'est que Gandhi, ce Gandhi-là de l'Afrique du Sud, dans ses tout débuts, ses premiers pas, était absolument incapable de s'exprimer en public.
Et oui, voilà, il était très
c'est
timide.
Incroyable. Ouais. Et c'est devenu ensuite ce fameux orateur.
En fait, ce côté timide, un peu renfermé, etc., il va comprendre, parce qu'il est d'une suprême intelligence, il va comprendre qu'il peut le retourner à son profit, qu'il peut en faire un véritable instrument de pouvoir et d'influence. Mais ce sera un peu plus tard, tout ça. Alors, il faut dire que votre roman est écrit à la première personne. Ce sont les souvenirs concernant Gandhi d'un monsieur dont je vous avoue en toute sincérité que je n'avais jamais entendu parler auparavant, en ce qui me concerne, mais qui a joué dans la vie de Gandhi un rôle absolument essentiel. Il s'appelle Hermann Kallenbach. Alors, qui est-il exactement ? Expliquez-nous.
Hermann Kallenbach est un brillant architecte né en Prusse orientale. Enfin,
donc il est allemand. Hein.
Il est allemand. Il est culturiste. C'est une sorte de Schwarzenegger avant l'heure.
Une sorte d'Apollon.
Enfin, pas vraiment quand on voit les photos. Bon. Mais enfin, c'est quand même un culturiste, un brillant architecte. Précisons que certains de ces immeubles, de ces constructions, sont au patrimoine national sud-africain. Et il est là, il a fait fortune, il a 32, 33 ans lorsqu'il rencontre Gandhi, et voilà qu'il rencontre...
C'est un Allemand, mais c'est un Juif allemand, il faut
juif
le dire.
Allemand, et c'est très important de préciser qu'il est Juif, parce que plus tard, on comprendra le rôle qu'il va jouer pour la création, le projet de création de l'État d'Israël. Et finalement, ce Juif allemand va rencontrer Gandhi dans un restaurant.
En 1904, là.
Absolument, ouais. Par l'intermédiaire d'un ami avocat.
Donc c'est juste après la période dont j'ai parlé, là.
Absolument.
C'est 2 ans plus tard, on va dire.
Absolument. Et là, le coup de foudre. Il n'y a pas d'autre mot. Alors d'aucuns vous diront que le coup de foudre sous-entend systématiquement un homme et une femme. Ben non, ça peut aussi rapprocher deux hommes ou deux femmes. Et à partir de ce moment-là, Hermann va être totalement subjugué, j'allais dire envoûté par Gandhi. Et va naître entre eux une relation homophile, homosexuelle, peu importe.
Vous dites peu importe, mais vous imaginez bien que, étant donné le statut phénoménal du personnage de Gandhi, je disais un des personnages les plus importants du XXe siècle, et peut-être même de l'histoire, allez, n'ayons pas peur des mots, il est relativement important d'en savoir davantage. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation ? Vous dites homophile, homosexuel, est-ce qu'ils ont eu des relations entre eux ? Est-ce qu'on peut le savoir ?
Écoutez, c'est très clair. Il suffit de lire simplement déjà l'autobiographie de Gandhi, qui parle de son hyper-libido, de son hyper-sexualité.
Et ça, est-ce qu'il n'arrêtera jamais, d'ailleurs, parce que ce sera le cas encore quand il sera...
Jusqu'à la fin de sa vie, lorsqu'il forcera sa nièce de 17 ans à dormir nue dans le même lit, et son médecin personnel, qui est une femme aussi, enfin bon, bref. Il a une libido frénétique, il le dit lui-même. Il rencontre Hermann, il y a des lettres que nous avons retrouvées.
Alors voilà, c'est ça. Oui. Là, j'ai...
Qui ne laissent pas de doute sur la relation qu'ils ont pu avoir. En tout cas, si elle est charnelle, elle n'a pas duré longtemps. Parce que Gandhi fait vœu de chasteté en 1906. Voilà. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu, ils ont vécu ensemble. Herman a quitté sa femme, ses enfants. Gandhi, pardon, a quitté sa femme, ses enfants, est allé vivre avec Herman.
Alors Gandhi se fait surnommer chambre haute et Herman chambre basse dans leur correspondance. Allusion au système bicaméral britannique en l'occurrence, hein, la chambre
oui,
des pairs et la chambre des communes en fait.
Oui, hein. Parce que la chambre basse propose les lois, mais la chambre haute les censure.
Voilà. Alors, chère chambre basse, donc c'est daté de Londres le 24 septembre 1909, c'est au cours d'un séjour donc de Gandhi à Londres. Votre photo, la seule que je possède, repose sur le manteau de la cheminée de ma chambre. La cheminée est face à mon lit. Les cure-dents, les peignes, le coton et la vaseline, tous ces objets que nous chérissons me ramènent constamment à votre souvenir. J'aurais voulu vous chasser de mes pensées, je n'y arrive point. C'est vous dire combien vous avez pris possession de mon être, par exemple. Hein, c'est une des lettres, ça.
Oui, absolument, il y en a d'autres. Mais en fait, je pense qu'il y a véritablement, en tout cas, une grande histoire d'amour entre ces deux hommes. Herman ne va jamais quitter Gandhi. Pendant tout son séjour en Afrique du Sud, il le suit à la trace. Il va se ruiner pour lui, parce que lorsque il se sépare en 1914, Herman Kallenbach a tout perdu, tout consacré pour aider Gandhi dans sa mission.
Gandhi qui est marié, père de famille, qui va quitter l'Afrique du Sud et qui ne pourra pas rester à Londres, qui va très vite, au début de la Première Guerre mondiale, rejoindre les Indes, en fait, hein, ce qu'on appelle les Indes à l'époque. Hein.
Absolument, c'est le moment de la séparation entre lui et Herman, après avoir cohabité et vécu ensemble pendant plus de 10 ans, la guerre va les séparer. Donc Herman, à mon avis, a été totalement pris, envoûté par Gandhi.
Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que l'influence de ce Herman Kallenbach ou Kallenbach a été grande sur Gandhi?
Non, je pense qu'Herman n'a eu aucune influence sur Gandhi. En revanche, je pense que Gandhi a beaucoup plus aimé Herman que Herman ne l'a aimé.
Alors nous allons voir dans un instant ensemble, nous allons voir ce qu'il en a été réellement de l'activité de Gandhi en Afrique du Sud avant son départ, car nous l'avons laissé dans les années 1904-1905. Il ne part qu'en 1914 et ces 10 années-là sont essentielles pour comprendre le parcours du personnage.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Franck Ferrand qui est toujours en direct et en public du Salon des Seniors, Porte de Versailles, avec son invité Gilbert Sinoué qui nous parle de son ouvrage « La nuit de Maritzbourg, l'éternel amour de Gandhi » aux éditions Flammarion.
Alors justement, pendant l'interruption, Céline, Gilbert Sinoué était en train de me lire une lettre de Herman, hein, donc de cet Allemand, qui était une sorte de dandy par ailleurs. Hein, il roulait dans une Mercedes
superbe. Oui, première Mercedes déjà.
Oui, c'est ça. Oui. Il écrit à son frère à propos justement de la nature des liens qui l'unissent à Mohandas Gandhi. Mohandas qui l'abrège lui Mohan. D'ailleurs, c'est le nom que vous lui donnez dans le roman.
Oui, il écrit donc à son frère Simon. Alors ça, c'est très étonnant parce qu'il dit, au risque de t'étonner, j'ai aussi renoncé à ma vie sexuelle. Oui, tu as bien lu. Ce qui prouve bien, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que Gandhi avait donc fait vœu de chasteté et avait imposé à Herman de faire aussi vœu de chasteté. Donc il dit, j'ai aussi renoncé à ma vie sexuelle. Depuis que j'ai pris cette décision, j'ai gagné en force de caractère, en résistance mentale et en vitalité. Il précise... Je sais que ma famille me qualifie d'excentrique. Je ne l'ai jamais été et je ne le suis pas plus maintenant et je ne suis pas dupe. J'imagine, lorsque je ne les surprends pas, les nombreux ragots qui courent sur l'amitié qui m'unit à Mohan. En amour, il faut voir et posséder celui ou celle qu'on aime à quelque prix que ce soit, parce que le principal désir est dans les sens et le sentiment n'est qu'un accessoire, alors que l'amitié résiste dans l'absence. Ni les lieux, ni le temps ne peuvent altérer sa durée. En vérité, Simon, l'amitié qui me lie à Gandhi, c'est de l'amour anobli.
de l'amour anobli. Je pense que là, c'est la réponse à la question que je vous posais tout à l'heure. On voit bien quel est le type de lien extrêmement fort, très amoureux et en même temps sans doute très chaste entre les deux hommes. On sait par ailleurs que Gandhi, on ne connaît pas d'autres aventures homosexuelles à Gandhi lui-même, non, puisque au contraire...
On soupçonne qu'il y en a eu une quand il était tout jeune avec un certain Mehtab. Mais rien n'est...
Alors, c'est cette grande découverte, si je puis dire, on la doit à la publication d'une... Enfin, pas à la publication, mais à la mise sur le marché d'une correspondance. Il faut expliquer ça, Gilbert Sinoué.
Oui, parce que pendant de très longues années, jusqu'à il y a 2-3 ans, cet échange de lettres entre Gandhi et Herman, précisons qu'on n'a que les correspondances de Gandhi à Herman, mais on n'a pas celles de Herman à Gandhi. Parce que dans une des lettres, Gandhi précise à Herman « Je suis triste d'avoir à détruire toutes tes lettres, mais puisque tu me l'as demandé, c'est ce que je ferai. » Et donc, il y a 2-3 ans, il y a encore 2-3 ans, nous n'avions pas cette correspondance. Et là, la famille d'Herman Kallenbach, qui vit toujours en Israël, a décidé de les mettre aux enchères. Et les a mis aux enchères chez Sotheby's, à Londres. Et le gouvernement indien s'est évidemment précipité pour s'en rendre acquéreur. Et c'est ainsi que nous avons pu avoir un droit de regard sur cette correspondance.
Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que Gandhi a utilisé les réseaux, l'influence et puis surtout les moyens financiers de son ami Herman ? Est-ce qu'il aurait utilisé d'une manière ou d'une autre ?
Je ne pense pas qu'il l'a utilisé sciemment. Je crois que Gandhi avait ce pouvoir étonnant sur les êtres. Il faut préciser que le Gandhi que nous imaginons, que nous avons vu dans certains films, n'est pas du tout celui qui était dans la réalité. C'est un être qu'on peut qualifier de psychorigide, d'intolérant.
D'un égotisme phénoménal.
Phénoménal, qui va menacer la vie de son fils et de sa femme parce qu'il refuse d'appliquer la médecine traditionnelle. C'est un être d'une seule pierre, c'est un bloc de pierre. Donc, mais ce bloc de pierre n'est pas quelqu'un d'opportuniste, c'est pas quelqu'un qui va utiliser les
autres. Ce sont les autres qui se plient à lui et non pas l'inverse.
Absolument, ce sont les autres qui sont totalement envoûtés quand il va ordonner la marche du sel plus tard en
Inde. Oui, bien sûr, en 1930.
Voilà, et quand il ordonne la marche qu'il a appelée la marche épique en Afrique du Sud, où ils vont parcourir des centaines de kilomètres, sachant qu'ils iront en prison, c'est encore son pouvoir.
C'est ce qui vous a donné, c'est cette correspondance et cette relation tout à fait extraordinaire qui vous a donné envie d'écrire sur Gandhi, Gilbert Sinoué ?
Absolument, parce que je trouve que c'est absolument fascinant de voir cette amitié, cet amour entre deux êtres qui a duré jusqu'en 1945. Ils ont échangé des lettres jusqu'en 1945.
Qu'ils s'étaient séparés en 1914.
Absolument. Et précisons que la nièce de Herman Kallenbach va retrouver Gandhi, revient voir son oncle en Afrique du Sud et lui dit « Le médecin de Gandhi m'a dit que si tu vivais près de lui, près de Gandhi, il est sûr qu'il vivrait 20 ans de plus. » C'est dire à quel point Gandhi était attaché à Herman.
Alors après le départ de Gandhi, Herman va retomber dans une sorte de, comment est-ce qu'on va dire, de normalité, le terme est devenu tellement connoté, de normalité ordinaire.
Je crois qu'il retrouve un peu ses marques. Je crois qu'il a vécu 12 ans, 13 ans de folie totale. Il est devenu ascète. Il a appris à fabriquer ses sandales parce que Gandhi le pousse à aller dans un monastère trappiste où il va apprendre à fabriquer ses sandales. Il quitte toute vie sexuelle. Enfin, il devient un double de Gandhi. Et je crois que lorsque Gandhi et lui se séparent en 1914 par la force des choses, me semble qu'Herman est tout à coup, me semble-t-il, libéré de cet amour qui le dévorait totalement, et il va redevenir ce qu'il était.
Alors il va entrer en contact, vous nous avez dit que la correspondance ne cesse entre eux, mais Herman va tenter d'obtenir le soutien de Gandhi, qui alors là, on est à la fin des années 30, en 37. Gandhi est devenu une célébrité mondiale, il est devenu une personnalité de tout premier plan, il a été reçu par le roi d'Angleterre, par Churchill à plusieurs reprises, etc. Et par un certain nombre de grandes personnalités sur la planète, et il se trouve que Weizmann, qui sera le futur président de l'État d'Israël, rencontre notre Herman Kallenbach et lui demande de l'aider pour que Gandhi appuie l'idée de la création d'un État d'Israël, en fait. Hein.
Oui, absolument. Une fois séparés, Herman s'est rangé a adhéré au mouvement sioniste. Il est abordé par Weizmann. Et Weizmann lui demande de partir en Inde, convaincre Gandhi de l'aider à, à soutenir la création d'un futur État d'Israël. Herman part retrouver Gandhi et là, il se heurte à un mur. Gandhi refuse totalement de soutenir la création d'un futur État d'Israël. Alors d'aucuns vous diront que c'était de l'antisémitisme. Moi, je pense que c'était un jeu politique.
Et il ne voulait pas non plus d'un État palestinien, du reste. Hein.
Non plus. Et je pense que c'était un jeu politique parce qu'il y a quand même, il y avait quand même à l'époque déjà 70 millions de musulmans. Et je pense qu'il ne voulait pas s'aliéner tous les musulmans d'Inde.
Et ça, c'est assez étonnant de constater la dimension politique au sens propre du mot chez cette grande âme, chez ce Mahatma Gandhi dont on a toujours l'impression que seule la justice ou seule une forme d'équité suprême animait les actes. C'est pas tout à fait le cas. Et alors, vous allez jusqu'à publier à la fin de votre roman une lettre par ailleurs célèbre dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans le cadre de cette émission. C'est cette lettre signée Gandhi et qui commence par « Très cher Monsieur Hitler ». C'est quand même un peu...
Et qui finit par « Conservez-moi votre amitié ».
Oui.
Oui, mais je pense qu'il à ce moment-là, Gandhi a perdu toute forme de lucidité. Il encourage les Juifs d'Allemagne. On est à la veille, on est déjà à la nuit de cristal.
Il ne veut pas croire à l'apocalypse. Hein.
Non. Et il encourage les Juifs allemands à appliquer la non-résistance, la non-violence. Enfin, c'est complètement absurde quand on sait par quoi la communauté juive est passée en Allemagne. Et il écrit à Hitler vraiment comme on écrit à une espèce de maître à penser pratiquement. Et je crois qu'il est décalé totalement de la réalité à ce moment-là. Et puis il y a cet article terrible qu'il publie dans un journal indien qui s'appelle Les Juifs, où vraiment on peut le qualifier de totalement irrationnel et antisémite.
Et il est d'autant plus important de souligner donc que Hermann Kallenbach était lui-même juif.
Absolument.
Le personnage va disparaître, je parle de Hermann, il disparaît complètement de l'histoire. C'est assez étonnant.
Il disparaît de l'histoire de Gandhi, mais il continue à correspondre. Mais lui, il refait fortune, rachète une voiture, recommence sa belle vie. On dit qu'il a une relation avec une femme, la femme de son associé. Et puis il va mourir célibataire, seul, et probablement très profondément meurtri de l'attitude de Gandhi.
Quant à Gandhi, lui, il va connaître à partir de ce moment les années les plus extraordinaires d'une carrière qui ne sera pas exempte de douleurs et de souffrances, puisqu'il continuera à être souvent emprisonné, à être le jouet des rivalités terribles entre hindous et musulmans en Inde. Encore une fois, l'indépendance qu'il obtient n'est peut-être pas celle à laquelle il avait rêvé, et puis il sera assassiné. Est-ce que, nous avons dit tout à l'heure qu'il était psychorigide, c'est vous qui l'avez dit, que Gandhi, ça c'est moi qui ai dit qu'il était super égotique. Nous avons vu qu'il pouvait être de temps en temps intéressé d'une certaine manière et que c'était un politique. Enfin bref, je ne voudrais pas que les auditeurs qui sont en ce moment dans leur voiture se disent « Mais enfin, on m'a fait croire à la sainteté d'un personnage épouvantable. » Il était tout ça, mais il était bien plus, il était bien plus grand. Ça n'enlève, disons-le bien quand même, Gilbert Sinoué,
évidemment,
ça n'enlève
évidemment
rien au message de Gandhi et à cette espèce d'extraordinaire dimension de ce qu'a été la non-violence, la fameuse satyagraha en fait. Hein.
Mais c'est parce qu'il était comme il était que c'était un grand homme. Sa part d'ombre, si on veut appeler ça la part d'ombre, a fait de lui le grand homme. C'est ça qui... Et pardonnez-moi, je pense qu'on a juste une seconde. Il dit lui-même, ceux qui m'affronteront devront se conduire avec une extrême prudence à l'égard d'un homme pour qui ni le plaisir sexuel, ni les richesses, ni le confort, ni les louanges, ni la promotion personnelle ne représentent quoi que ce soit, mais qui en revanche est déterminé à faire ce qu'il croit être juste. Cet homme est un ennemi dangereux.
Eh bien voilà la conclusion que je cherchais. Merci infiniment Gilbert Sinoué. La nuit de Maritzbourg, l'éternel amour de Gandhi, c'est édité chez Flammarion et c'est, disons-le, je ne crois pas faire de gros pronostics très dangereux en disant ça, c'est le roman de l'année. Merci beaucoup.
Instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question de Ludivine sur ce que l'on appelle la cinquième colonne.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Toujours en direct du Salon des Seniors Porte de Versailles, vous répondez, Franck Ferrand, à la question de Ludivine, qui nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait savoir ce que l'on appelle la cinquième colonne.
Eh oui, cette expression cinquième colonne, c'est d'ailleurs le titre d'un film d'Hitchcock aussi, évidemment. La cinquième colonne, ce sont les éléments infiltrés dans une organisation. Vous savez, notamment des éléments d'un autre État dans un État en guerre. C'est l'essentiel même de l'utilisation de l'expression. Alors, cette expression, elle vient de la guerre d'Espagne, en fait. Elle est relativement récente. Vous savez, cette guerre civile entre 1936 et 1939, entre les républicains et les nationalistes de Franco. En fait, il y a eu ce coup d'État du 17 juillet 1936 depuis le Maroc espagnol qui échoue partiellement. Et à partir du 20 juillet, le conflit va se développer, s'enliser entre les deux camps. C'est le début de cette guerre civile. Et l'expression cinquième colonne, elle date de novembre 1936, au moment du siège de Madrid par les forces nationalistes. L'un des leaders nationalistes, Emilio Mola, annonce à la radio que les quatre colonnes militaires dont il dispose vont attaquer la ville, mais aussi qu'une cinquième colonne est déjà sur place, chargée de favoriser depuis l'intérieur le succès des assaillants. Eh bien, il s'agit donc, vous voyez, d'une manœuvre de guerre psychologique, en quelque sorte. Eh bien, cette expression, à partir de là, elle va rester et elle va être utilisée très souvent. Et il y a une anecdote à ce propos que je trouve assez piquante, c'est que le 26 août 44, vous savez, au moment du grand défilé sur les Champs-Élysées, au moment de la libération de Paris, il y a des coups de feu, et des coups de feu qui ont l'air de provenir de l'hôtel Crillon sur la place de la Concorde, et quelqu'un se tourne et crie « C'est la cinquième colonne !» Et à ce moment-là, il y a le chef d'un char d'assaut qui ne comprend pas de quoi on parle, il compte en partant de la gauche la cinquième colonne de l'hôtel Crillon, il tire dessus, il va complètement écrouler la colonne, et quand vous passez actuellement encore sur la place de la Concorde, enfin en ce moment il y a des travaux, ça se voit moins, mais vous voyez qu'il y a une colonne qui n'est pas d'origine, c'est la cinquième colonne. Vous voyez comme quoi il faut parfois connaître l'origine des expressions et leur véritable sens.